France Culture, grand reportage, Anne Fauquemberg.
C'est vrai que depuis 2004, la situation a énormément changé. On se trouve confronté de plus en plus à des sécheresses de plus en plus prononcées, de plus en plus longues, de plus en plus précoces. On s'est vu proposer il y a 4 ans l'exploitation du parc agrivoltaïque de Verneuil. Et on a pu constater que les agneaux grossissaient plus sous les structures photovoltaïques.
On a beau nous dire que non, les panneaux viennent un supplément de l'agriculture, c'est pas vrai, c'est l'agriculteur qui va entretenir sous les panneaux. On dénature le métier de paysan.
On vit dans une campagne qui est propre, calme et tout. Et là, moi, ça me dérange terriblement parce que j'aime pas ça, c'est moche. On n'aura vu que sur ces photovoltaïques-là, mais plus sur les champs.
En pleine crise énergétique et sous la pression de l'urgence climatique, le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, dit loi ENR, a été adopté le 7 février dernier par le Parlement. Sa promulgation reste soumise à un avis du Conseil constitutionnel, mais le cap est fixé. Comme l'a dit le président de la République à Belfort il y a un an, il s'agit de multiplier par 6 la capacité de production d'énergie solaire de la France et d'atteindre d'ici 2050 les 100 gigawatts contre 16 actuellement. Alors comment s'y prendre ? Le projet de loi facilite l'installation de panneaux solaires sur des terrains déjà artificialisés, comme des bordures d'autoroutes. Il encourage aussi la pose de panneaux solaires sur les toits d'immeubles non résidentiels. Et pour la première fois, il est question dans la loi d'agrivoltaïsme. Il s'agit d'une installation de production d'électricité qui utilise l'énergie du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole, dans une logique de synergie entre les cultures et les panneaux photovoltaïques. Mais les parlementaires ne vont-ils pas un peu vite en besogne ? Même si les technologies ont grandement évolué et permettent un impact minimal sur le sol, la Confédération paysanne, l'un des syndicats agricoles, demande un moratoire sur ces installations. Elle s'alarme de cette notion marketing qui risque de porter atteinte à la vocation nourricière de la terre. Au contraire, la FNSEA, la principale fédération professionnelle, a décidé d'adhérer à l'une des associations de promotion et de défense de l'agrivoltaïsme. En bref, le monde agricole et paysan est divisé. Quant aux riverains, ils se méfient des conséquences pour le paysage. Agrivoltaïsme, nos cultures à l'ombre des panneaux solaires, c'est une question et c'est un grand reportage de Valentin Bertrand. Pour écouter et commenter ce reportage, nous sommes ici en studio avec Jérôme Mousset, directeur de la bioéconomie et des bioénergies à l'ADEME. Bonjour.
Bonjour.
L'ADEME, je le rappelle, c'est l'agence de la transition écologique. Vous participez sous la houlette de l'État à la mise en place des politiques publiques en matière d'énergie et de protection de l'environnement. Et puis nous sommes avec Valentin Bertrand. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Valentin, l'agrivoltaïsme est déjà une réalité dans les campagnes. Combien de projets sont sortis de terre ?
Et selon l'ADEME, justement, il y a un peu plus de 160 parcs agrivoltaïques en fonctionnement. C'est une estimation basée sur les dires des constructeurs. En réalité, pour avoir le nombre exact, il faudrait réexaminer chaque projet pour voir s'il colle ou non à la nouvelle définition de l'agrivoltaïsme, désormais inscrite dans la loi. Mais l'ordre de grandeur est là et il est certain que les constructions vont se multiplier dans les 5 années à venir. De nombreuses entreprises sont en train de démarcher des agriculteurs. C'est donc toute une filière et une économie qui est en train de sortir de terre.
Et nous partons tout de suite à Verneuil dans la Nièvre, à 40 km de Nevers.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Valentin Bertrand.
Emmanuel Mortelmans.
Donc là, on les entend, les moutons, ils sont pas loin ?
Ils sont pas loin, oui. On peut aller les voir si vous voulez.
Là, vous les avez mis au chaud pour l'hiver ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est la période d'agnelage. Du coup, elles sont toutes rentrées à l'abri pour faciliter la surveillance lors des mises bas.
Donc maintenant, on va aller voir là où les moutons, ils sont...
Où ils passent la majeure partie de leur temps.
Donc c'est en extérieur, dans des prairies, avec des panneaux solaires.
Oui, voilà.
C'est parti ?
Et on est parti.
Finalement, c'est quand même assez resserré, les panneaux.
Ah, ça a l'air pour vous, c'est resserré. Je peux vous dire que c'est pas si resserré, ça.
En arrivant sur place, nous retrouvons un représentant de la filière agrivoltaïque et Johnny Randou, le responsable de la maintenance du parc de Verneuil. Bonjour.
Bonjour.
À quoi ça ressemble, cette centrale de Verneuil ?
Imaginez des ombrières de parking
rabaissés au point bas à 1 mètre et au point haut à 2,70 m environ. Ces tables donc sont positionnées et ancrées dans le sol, aucun béton, et on installe nos modules, qu'on appelle modules, donc les panneaux photovoltaïques. Vu du haut, on verrait donc un espacement des panneaux solaires, un espacement de 4,30 m d'herbe, des panneaux solaires, un espacement d'herbe.
C'est quoi la différence de l'installation ici versus une centrale solaire classique?
La différence, c'est justement l'espacement entre les tables. 4,30 m, ça permet de pouvoir faire venir un engin pour travailler l'herbe, pour continuer à travailler une prairie normalement, d'accord ? Et le point bas d'une table de 1 mètre pour pouvoir avoir un accès libre aux moutons, pour qu'ils puissent circuler n'importe où sans se faire mal et pouvoir manger aussi toute l'herbe qu'il y a sous les tables. En fait.
On va se déplacer le long de ces panneaux solaires pour découvrir toute l'installation. Et là, il y a une boîte blanche qu'on entend siffler. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, cette boîte blanche, c'est un outil principal pour nous. C'est ce qui permet de transformer l'énergie solaire en courant alternatif, ce que les gens ont, les prises ou la lumière que vous avez à la maison. Et cette boîte permet cette transformation. De là, on repart et on injecte notre courant généré par les panneaux solaires dans le réseau électrique d'Enedis. On est à 55 gigawatts de production d'énergie, ce qui est équivalent entre 15 et 20 000 foyers hors chauffage alimentés en électricité annuellement.
Je me tourne vers vous maintenant, Emmanuel Mortelmans. Vous êtes l'un des premiers, finalement, en France, à avoir ce recul 4 ans, à vivre avec une installation agrivoltaïque. Quel est votre bilan, vous, maintenant, après ces années et cette expérience que vous avez ?
Disons que j'ai été vraiment chanceux de pouvoir exploiter ces surfaces. Quand je vois l'intérêt indéniable par rapport au changement climatique que ça peut procurer pour un élevage, c'est vrai que depuis 2004, la situation a énormément changé. On se trouve confronté de plus en plus à des sécheresses de plus en plus prononcées, de plus en plus longues, de plus en plus précoces. Précoces, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de difficultés à reconstituer nos stocks de fourrage. Et on envisageait de diminuer la pression de pâturage, donc en diminuant le troupeau. Finalement, on s'est vu proposer il y a 4 ans l'exploitation du parc agrivoltaïque de Verneuil. Donc ça nous a permis donc du coup de maintenir notre effectif et on a pu constater l'avantage pour les animaux et sur la pâture de la présence de structures photovoltaïques.
Quelle est cette différence ?
On a observé que les agneaux grossissaient plus sous les structures photovoltaïques. Du coup, une étude a été menée, ça fait 2 ans qu'on mène l'étude, et on a pu observer qu'il y avait un gain de croissance de 3 kg sur les agneaux comparé aux lots témoins qui n'étaient pas sous panneaux photovoltaïques. Il suffit de venir, par exemple, en pleine période estivale, on constate tout de suite que sous les structures, il reste de la végétation. Il y a de l'herbe. Sur le site de Verneuil, donc les 70 hectares, j'ai 350 brebis qui sont en pâture 10 mois et demi de l'année. Et l'été, je n'amène aucune botte de fourrage, quoi. Et on le remarque aussi sur l'état général des brebis en pleine période estivale. Quand elles sont là sur un parc photovoltaïque, en pleine chaleur, elles se mettent à l'ombre des structures, quoi. Il y a de l'ombre partout.
Toute cette installation, combien ça vous coûte? Combien ça vous rapporte?
Disons que ça nous rapporte le fait que déjà on a eu à disposition des terrains sans avoir de fermage à payer. Donc le fermage pour un exploitant agricole, donc c'est la somme qu'il verse tous les ans pour pouvoir bénéficier des terrains.
Donc pas de sortie d'argent, est-ce que ça vous rapporte quelque chose ?
Le fait de retrouver de l'autonomie fourragère, c'est énorme, quoi. Si j'avais besoin d'acheter du fourrage à l'extérieur, puisque j'arrivais plus à en avoir assez par rapport au volume de mon troupeau, le gain que j'ai, c'est des dépenses en moins, en fait.
C'est, de votre point de vue, une centrale qui peut faire office de modèle d'un certain agrivoltaïsme.
Oui, complètement. Déjà parce qu'on a un retour d'expérience suffisamment long et qu'on voit que ça marche. Quentin Hans, représentant de la FFPA. La FFPA, donc la Fédération Française des Producteurs Agrivoltaïques, c'est aujourd'hui la seule fédération française qui représente des agriculteurs qui veulent faire et qui font déjà, pour certains, de l'agrivoltaïsme.
C'est quoi la différence fondamentale entre une centrale solaire dont le but est de produire de l'électricité et ce parc agrivoltaïque tel qu'on le voit ici ?
Alors, la différence, c'est que sur une centrale, un parc agrivoltaïque, vous allez avoir une double production. Vous allez avoir un énergéticien qui va produire de l'énergie grâce aux panneaux photovoltaïques et un agriculteur qui va poursuivre son activité agricole. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir au maximum en donnant toujours, et ça c'est primordial, des garanties au monde agricole de pouvoir poursuivre leur activité agricole qui doit rester l'activité première, parce qu'un agriculteur aujourd'hui n'est pas un producteur d'énergie, c'est un agriculteur, et donc c'est comment est-ce que ce projet s'adapte à la réalité du monde agricole.
Cette loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été adoptée par le Parlement au début du mois de février, cette loi, qu'est-ce qu'elle change pour la filière agrivoltaïque française ?
Alors cette loi, déjà, elle change une chose qui est extrêmement importante, c'est que nous avons une définition de l'agrivoltaïsme, 4 critères pour qu'un projet soit considéré comme agrivoltaïque: l'adaptabilité au changement climatique, la résilience aux aléas climatiques, le bien-être animal et l'amélioration du potentiel agronomique des parcelles concernées. Il y a quelques petites choses où nous aurions aimé voir les choses différemment, mais dans l'ensemble, c'est un texte qui donne un cadre et qui permettra à la filière de s'inscrire dans le temps long et de voir que l'agrivoltaïsme est quelque chose de reconnu aujourd'hui.
Ici, à Verneuil, c'est donc une solution assez simple et éprouvée qui a été utilisée, des panneaux solaires installés sur une structure métallique. Mais derrière l'agrivoltaïsme, il y a en fait toute une palette de technologies, y compris des solutions présentées comme intelligentes, comme nous allons le découvrir à Tresserre. On est à 15 km au sud de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. On est à présent au pied des Pyrénées, dans le domaine de Pierre Escudier, l'un des tout premiers vignobles à être équipé de cette technologie agrivoltaïque. Pour le visiter, je vais retrouver Anne-Lise Salomé, représentante de Sonagri, le développeur. Bonjour.
Bonjour.
On va déjà peut-être décrire à quoi ça ressemble, c'est assez impressionnant. On a les vignes au pied, évidemment. On a des grands mâts qui font 4-5 mètres de hauteur, répartis à intervalles réguliers. Et au sommet de ces mâts, il y a des panneaux solaires. Et ils sont visiblement orientables.
Oui, en fait, on est sur une structure avec des panneaux qui couvrent à peu près un rang de vigne sur 3. Vous entendez là les panneaux qui sont en train d'être orientés en fonction des besoins en lumière de la plante. Le pilotage des panneaux est fait par un algorithme, une intelligence qui a été développée par Sonagri, tient compte de 3 paramètres: la météo et l'ensoleillement de la journée, l'état de la plante, puisqu'on a installé sur la parcelle et sur les vignes des capteurs agronomiques qui nous donnent l'information de l'état de la plante en temps réel, et puis aussi notre connaissance de quel est le taux de lumière que la plante doit recevoir à ce moment-là de l'année. Voilà. Et en fonction de ces 3 données-là, on sait nous piloter à distance le système photovoltaïque.
Donc on l'a compris, c'est une solution qui est très technologique. Il y a une question qui me paraît centrale, c'est un coût de combien à l'hectare ?
Alors, à l'heure actuelle, on est dans un démarrage industriel, on est autour du 1 000 000 d'euros à l'hectare. En comparaison avec les parkings de supermarché, on est sur les mêmes investissements et le même retour sur investissement. Donc c'est une énergie qui est compétitive, qui a les mêmes coûts de production, donc c'est intéressant.
Donc ça fait 2 vendanges qui sont réalisées sur ces pieds de vigne sous panneaux solaires. Quels enseignements on en tire du point de vue viticole ?
Ici sur ce site, c'est la qualité du vin, la qualité des baies. Donc on a relevé des taux de sucre allant jusqu'à moins 2 degrés de taux de sucre. Et également une acidité moindre d'à peu près 15%. C'est ce que recherchent les viticulteurs ici dans la région. Avec le changement climatique, les vins deviennent trop sucrés et trop alcoolisés. Et donc on arrive à réduire ces taux de sucre et ces taux d'alcool.
Donc le propriétaire du domaine arrive. Bonjour monsieur Escudier. Cette installation de panneaux solaires, vous, qu'est-ce que ça a changé pour vous et votre pratique du métier ?
À l'heure actuelle, bon, je ne constate que du positif, c'est-à-dire que la vigne ne souffre pas, parce que face à toutes ces accumulations d'années de sécheresse, nous avons d'abord une perte de rendement, et qui dit perte de rendement dit perte de revenus. Quand vous atteignez les 38 et 40 degrés, bon, ben, la plante se recroqueville sur elle-même, se protège, et pour avoir un bon raisin, il faut que la plante se porte bien, hein, c'est essentiel. Et si on lui donne l'ombre quand elle en a besoin, ben, elle ne peut que se trouver mieux. Il faut savoir que ces panneaux ne travaillent que pour la vigne du mois de mai, c'est-à-dire du débourrement de la vigne, au vendange. Ensuite, ils se positionnent pour optimiser la production d'électricité.
Dans le discours des associations de protection de l'environnement, on oppose souvent ces techniques agrivoltaïques à ce qu'on appelle l'agroforesterie, l'alternance d'une production, en l'occurrence de pieds de vigne, avec des arbres fruitiers. Vous en pensez quoi ? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été en balance à un moment donné dans votre choix d'adaptation face au dérèglement climatique ?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a 60 ans, 70 ans, nous avions dans le département ce type de culture. C'est la vigne en alternance avec l'abricotier ou le cerisier en Vallespir. Mais c'était à l'époque pour avoir deux récoltes, une de vin et une de fruits. Le problème de l'agroforesterie, comme on peut dire, c'est que l'arbre puise exactement les mêmes ressources que celles de la vigne sur la parcelle et ça pénalise évidemment la vigne.
Je me tourne vers vous maintenant, Nathanaël Casriel. Vous êtes le représentant de France Agrivoltaïsme, une association qui fédère plusieurs entreprises constructeurs de centrales agrivoltaïques. Ici, à Tresserre, on est sur une installation très technologique. Est-ce que ça va être ça le futur de l'agriculture ?
Il y a plusieurs réponses. Non seulement tous les vergers ne vont pas ressembler à ça d'ici 10, 20, 30 ans, et ensuite tout l'agrivoltaïsme ne ressemblera pas à ça d'ici 10, 20, 30 ans. D'abord, il faut savoir que pour atteindre les objectifs énergétiques, à 2050, il faudra au maximum 100, 200 000 hectares de panneaux photovoltaïques. Et dans les panneaux photovoltaïques, vous allez avoir la toiture, vous allez avoir les terrains dégradés, donc quand vous allez construire par exemple sur une ancienne carrière, et vous allez avoir aussi l'agrivoltaïsme. En France, il y a 30 millions d'hectares de surface agricole utile. Donc ces 100 000 hectares, ça ne représentera pas tous les vergers. Par contre, à horizon 2050, il va y avoir un grand nombre de vergers qui seront en stress vis-à-vis du changement climatique. Et il va falloir, structure agrivoltaïque ou non, trouver des moyens de les adapter au changement climatique. Et pour l'agrivoltaïsme, on est dans une filière qui est innovante, qui se construit avec un faisceau d'acteurs très important et des projets qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Donc le but, finalement, le futur de l'agrivoltaïsme, c'est mettre en place ces cadres qui vont permettre d'analyser les projets a priori, pendant leur construction et a posteriori, pour s'assurer finalement que chaque projet se construise de façon durable et améliore la production agricole.
Quand on voit le prix que représentent ces technologies sur la parcelle, est-ce que cette parcelle, finalement, ne vaut pas plus cher désormais ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence foncière sur ces parcelles équipées de ce genre de technologie au moment de la revente ?
Bah, c'est toute la question et c'est là que la législation et la réglementation sont extrêmement importantes. C'est l'objet en fait de la création de France Agrivoltaïsme. Vous avez deux mondes qui se rencontrent, deux mondes qui co-construisent une nouvelle filière avec deux nouveaux défis qui sont les problématiques financières, la spéculation foncière et évidemment les problématiques sur la pérennité de l'activité agricole.
Me voilà à Antibes. Ici aussi, de nombreux projets agrivoltaïques ont vu le jour, mais tous n'ont pas été concluants, à l'instar des serres agrivoltaïques. Pour s'en rendre compte, j'ai rendez-vous avec Jean-Luc Béliard. Il est responsable des questions énergie-environnement à la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. Oui, c'est bien vous ?
Oui, c'est bon.
Bonjour.
Allez-y.
Donc vous êtes à la tête de ce dossier agrivoltaïque, notamment dans les Alpes-Maritimes. Initialement, quand vous avez vu cette technologie arriver, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, c'est un double sentiment. Il y a un premier sentiment qui est favorable, et puis rapidement, on va découvrir des effets pervers, qui sont des concurrences avec les cultures, avec la vocation agricole, alors nourricière ou de production des terrains. Et on se rend compte assez rapidement que l'agriculture, les productions agricoles ne font pas le poids.
Donc là, on est où?
Donc on est sur les hauteurs de Valoris, qui à l'origine était un gros village et qui maintenant est une ville de 20-30 000 habitants. Et au niveau agricole, donc Valoris, c'était les mimosas, les roses et beaucoup aussi la fleur d'oranger pour les plantes aromatiques, Chanel, Dior, les parfums, etc. Aujourd'hui, il reste une petite dizaine de rosiéristes, quelques maraîchers. Et là, on arrive chez un des derniers des Mohicans, un rosiériste.
Ouais.
Ouais, je suis au portail, Patrick.
Allez, j'arrive.
Donc, je m'appelle Patrick, je suis horticulteur. On fait uniquement de la rose en fleurs coupées. Et en 2010, on a décidé de faire une serre en photovoltaïque pour compléter nos revenus. Ça représente à peu près 700 mètres carrés de panneaux.
On va voir cette serre.
Ouais, ouais, allez. On va voir la serre. Ça, c'est la serre photovoltaïque avec là les onduleurs et au-dessus les panneaux solaires.
Ça ressemble pour toutes les façades, tous les murs à une serre. Les murs sont transparents.
Voilà.
Le toit, par contre, lui, est totalement opaque.
Le toit est totalement opaque, oui. Ben, c'est pour la fixation des panneaux. C'est qu'on ne pouvait pas laisser les panneaux sur du verre, quoi. Il fallait obligatoirement changer les tôles. C'est ce qui fait que maintenant, on ne cultive plus en dessous, quoi. Que c'est devenu des serres vides de stockage, juste à cause des normes de fixation des panneaux, quoi. Voilà.
Quand vous vous lancez dans ce projet en 2010, est-ce que vous avez quand même pour projet d'arriver à y faire pousser quelque chose en dessous de ces nouvelles serres recouvertes de panneaux solaires?
On a essayé un peu, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, on a laissé tomber directement, quoi. La rose a besoin de beaucoup trop de lumière pour pouvoir pousser sous des tôles comme ça. C'est impossible. Impossible. Le temps qui a passé nous a donné raison d'avoir fait ce choix-là, de faire du solaire. Ça ne nous aurait pas rapporté autant de faire de la rose que le solaire, quoi.
On est dans quel ordre de grandeur pour les revenus que ça vous apporte, cette serre avec des panneaux solaires?
Non, ça je préfère pas, parce qu'après, quoi, quand vous dites, vous parlez de ça, non, c'est pas, non, je préfère pas.
Ça vous met mal à l'aise?
Non, ça me met pas mal à l'aise, c'est par rapport aux gens, quoi, je veux dire. C'est, après, ah oui, ils gagnent temps. À peu près, je veux dire, 40% de nos revenus, quoi, en gros.
Bonne journée. Ce qu'on vient de voir, une serre convertie en hangar avec des panneaux solaires, est-ce qu'on peut encore parler d'agrivoltaïsme dans ce cas-là, selon vous?
Ah ben non, on est parti sur un projet de panneaux solaires et de complément de revenus sur un hangar agricole. C'est complètement, on n'a plus de synergie avec une production agricole.
Quelle est votre position à la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes au sujet de l'agrivoltaïsme?
Alors au niveau de la Chambre, on va avoir ce qu'on appelle une doctrine, où on va être extrêmement attentif à tous les projets photovoltaïques sur serre. Pourquoi? Parce que par expérience, on a quand même, je dirais qu'on doit avoir dans les Alpes-Maritimes entre 10 et 15 serres photovoltaïques. On a un exemple qui marche très très bien. On doit avoir 5 ou 6 serres qui, après quelques années, sont à l'abandon. Et on a une ou deux serres où les gens se cherchent, ont un outil contractuellement pour une vingtaine d'années, donc il faut bien faire avec. Par contre, si ces exploitations-là sont encore en place, c'est peut-être parce qu'ils ont eu ce complément de revenus qui leur ont permis d'être encore en place aujourd'hui, alors que tous leurs collègues de travail ont disparu du marché. Et voilà, nous voilà arrivés.
Des exemples comme celui de Patrick, il en existe plusieurs en France. À chaque fois, la production d'électricité a pris le pas sur tout ou partie de l'activité agricole ou horticole. Dans les Pyrénées-Orientales, ce sont des fraisiers qui ne poussent plus sous des serres agrivoltaïques. En Haute-Saône, c'est un champ de céréales où quasiment plus rien ne pousse depuis l'installation de panneaux solaires trop rapprochés les uns des autres. Autant de contre-exemples pour les opposants à l'agrivoltaïsme. Parmi ces détracteurs, on retrouve généralement des syndicats agricoles, des riverains et parfois des élus. Pour s'en rendre compte, retour dans la Nièvre, cette fois au nord-est du département, où un collectif de citoyens vient de porter plainte contre un projet de parc agrivoltaïque.
increased by loneliness.
On est à Germenay, c'est ici, à la sortie du village, que doivent être installés 22 hectares de panneaux solaires. Selon les informations du développeur, ils doivent être perchés à 2 mètres de haut, au-dessus d'un champ. Un projet dénoncé par plusieurs habitants, mais rares sont ceux qui le disent au micro par peur de représailles. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Je peux vous laisser vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Chantal Lachaud, j'habite à Sougy, dans la Nièvre. Un petit hameau qui est donc rattaché à la commune de Germenay. Alors, de chez moi, donc le projet, c'est là. Donc c'est à une centaine de mètres de chez moi. Nous avons donc toute la vue sur ces champs, qui est d'ailleurs magnifique.
Quelles sont les raisons qui font que vous êtes contre ?
Ben, parce que moi j'aimais bien ma campagne. On vit dans une campagne qui est propre, calme et tout. Et là, moi, ça me dérange terriblement parce que j'aime pas ça, c'est moche. Et puis, bon, j'y verrais mieux, moi, sur des toits de maisons ou de hangars que par terre, dans les champs, quand même, on voit que ça. Et puis, ça prend une place phénoménale parce qu'ils vont nous en faire, donc, sur un côté des champs. Il y a une route qui passe au milieu et en face, donc, il y en aura aussi des photovoltaïques. Quand on passe sur cette route-là, on n'aura vu que sur ces photovoltaïques-là, mais plus sur les champs. Et ça, ça me gêne vraiment.
Parmi les opposants au projet, on retrouve également une influente association locale de protection de l'environnement.
Régisine Leperg, je suis coprésident de l'association Adrémorvan. Notre opposition au projet, elle est vraiment liée d'abord sur l'usage des terres agricoles. On sait que dans la Nièvre, on a cette surface déjà urbanisée pour implanter des panneaux solaires. On ne comprend vraiment pas pourquoi on irait les mettre dans des prés qui sont susceptibles de produire des denrées agricoles qui vont nous manquer à terme, surtout dans la Nièvre avec 64 projets quand même. Au bout d'un moment, ça finit par faire un peu des surfaces. Donc nous, on s'opposera a priori sur les projets qui vont artificialiser des terres agricoles. Et ça uniquement parce que c'est plus économiquement intéressant de faire ça sur des grandes surfaces dans des prés que de multiplier des surfaces un peu plus petites, genre parking ou friche industrielle.
Vous dites qu'on artificialise les sols. Quand on écoute les constructeurs, ils se défendent de ça et disent « nos structures, ce sont du pieux enfoncé dans la terre, tout cela, il suffit de l'arracher pour que ce soit totalement réversible et transparent à la fin du projet ». Pourquoi est-ce que vous parlez, vous, d'artificialisation ?
C'est sûr qu'on peut arracher les pieux à terme, mais bon, d'abord les câbles qui sont dans le sol, ça va être plus compliqué. En attendant qu'ils soient arrachés, ils vont être là, les panneaux quand même. Et ils ne sont pas là pour une petite durée. Si on veut amortir le projet, il faut qu'ils soient là au moins 30 ans, donc on ne va pas enlever ça dans 15 ans en se disant bah « zut, on manque de terres agricoles ». Donc c'est vraiment une politique de gribouille, quoi.
Autour de la table, on trouve un autre détracteur du projet, plutôt sur le volet agricole. Sylvain Ratteau, vous êtes représentant de la Confédération Paysanne de la Nièvre. Votre syndicat est opposé par principe à l'agrivoltaïsme. Mais ici, à Germenay, le développeur du projet assure que l'arrivée des panneaux solaires va amener de nouveaux revenus à l'exploitant agricole avec une nouvelle production plus rémunératrice. Les céréales vont être remplacées par du fourrage. N'y a-t-il pas des raisons de se réjouir d'avoir une nouvelle production sécurisée pour les 30 prochaines années, la durée de vie de la centrale ?
Qu'est-ce qui me prouve qu'ils disent la vérité ? Rien aujourd'hui. Et si jamais le projet agricole n'est pas respecté, qu'est-ce qui va empêcher de les arrêter de produire de l'énergie et dire on démonte les panneaux, on remet un projet agricole dessous ? Sans panneaux ? Rien. Et puis si on va aller plus loin comme ça, quand ils nous parlent de dire ça va être mieux d'avoir de l'herbe plutôt que des céréales, mais pourquoi de l'herbe est mieux que les céréales ? On a besoin de céréales aussi. C'est un jugement de valeur. Mais en attendant, on a des choix de production aussi et de nécessité. Et là, derrière, on ne laisse plus à l'exploitant en place le choix de sa production. On lui dit « tu feras de l'herbe » et voilà. Et bien, c'est dénaturer le métier de paysan aujourd'hui, tout simplement. Puisque derrière, c'est un contrat. Ce n'est plus un lien qui le lie à sa terre. C'est un contrat d'entretien. Il devient un paysagiste d'entretien sous panneau. On a beau nous dire que non, les panneaux viennent un supplément de l'agriculture. C'est pas vrai. C'est l'agriculteur qui va entretenir sous les panneaux. On remet vraiment un cran à l'industrialisation. Alors certes, on découvre que les animaux ou de l'herbe, c'est formidable, on n'a pas besoin de tondeuse. Mais ce n'est plus la production en elle-même. On sort du champ de la production agricole. On se jette à corps et à cri dans ce département sur le photovoltaïque, on se jette à corps et à cri sur le dossier de Germenay, mais on n'a pas de recul.
De son côté, le développeur du parc agrivoltaïque met en avant les moyens mis en place pour accompagner cette transition. Il y a notamment le financement d'un séchoir et le versement d'une aide de 180 000 euros à l'exploitant. Un projet solide d'après la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Didier Ramé, son président.
Bonjour.
Bonjour.
Pour ce projet-là, on a construit le projet agricole. Il est passé en commission préfectorale qui s'appelle la CDPNAF. Il a été accepté. Pour nous, le travail de notre côté est fait. Si le projet suscite des contestations et des craintes, on n'agit pas dans ce domaine-là.
C'est une production actuellement, une céréalière. L'arrivée des panneaux solaires va amener un changement de production, ça va devenir du fourrage. N'est-il pas problématique que ce soit l'arrivée des panneaux qui conditionne cette nouvelle production et une production qui n'est pas directement à vocation alimentaire?
Alors ce n'est pas problématique, c'est une évolution. Les panneaux solaires n'étaient pas là, ils arrivent, les gens s'adaptent, les gens en profitent, savent trouver cette opportunité. Le projet personnel des gens, nous on essaie de construire un projet agricole qui tienne la route, pérenne, mesurable. À ce titre, on a l'engagement de l'agriculteur et de l'investisseur de pouvoir mesurer annuellement cette production fourragère. Une fois que tout ça s'est lancé, c'est une opportunité par les panneaux solaires, pourquoi pas.
Comme toutes les énergies renouvelables, l'agrivoltaïsme fait donc aussi face à des réticences, voire à des oppositions de riverains. Pour favoriser l'acceptation de leurs projets, des constructeurs, comme l'entreprise bordelaise GLHD, misent donc sur des projets collectifs et concertés. Dans les Landes, à l'est de Mont-de-Parsan, c'est un projet XXL qui est sur le point de voir le jour. 700 hectares et 35 éleveurs et agriculteurs impliqués.
Jean-Marc Fabius, cofondateur de la société GLHD, développeur de grands projets collectifs agrivoltaïques. Terre Arboute, ce n'est pas une seule centrale de 700 hectares, c'est 48 îlots dispersés sur un rectangle de 20 km par 15. Donc c'est pas un bloc qui va constituer une visibilité particulière. Donc en fonction de toutes les contraintes, on a pu modifier les zones et sélectionner les zones, notamment au travers de la concertation. Il y a des cas où les gens nous ont demandé des reculs par rapport à leur maison qui soient plus grands. On avait prévu entre 30 et 50 mètres, on est passé à 150, 200 mètres. Il y a des zones qu'on a totalement abandonnées suite à des réunions de quartier où ils nous ont fait part de leurs craintes, de leurs peurs, de leurs besoins et de leurs envies. Et c'est eux qui vivent là, donc on les a écoutés et on est allé ailleurs, là où ça ne gênait pas pour faire ces mêmes îlots agrivoltaïques. C'est toute l'idée portée par le monde agricole, hein, c'est l'énergie d'un groupe, c'est d'avoir pensé un système où ceux qui n'ont pas d'agrivoltaïsme sur leur parcelle vont recevoir une partie des revenus qui sont adressés à l'ensemble du groupe des agriculteurs. Et donc ça leur amène un revenu complémentaire qui est sensiblement inférieur à ceux qui auront des panneaux pour la bonne et simple raison qu'ils n'auront pas la contrainte d'exploitation. Même si elles n'attaquent pas la qualité de la production, c'est quand même une contrainte dans l'exploitation de tous les gens.
Là on est ici sur le premier hectare pilote de ce projet Terre Arboute. Concrètement, du point de vue de l'agriculture, sur quel point est-ce que vous avez fait évoluer votre modèle agrivoltaïque?
On l'a fait évoluer par le retour d'expérience des premiers passages d'agriculteurs dans le site pilote. Typiquement, nous avons des boîtiers en bout de panneau et ce boîtier qui collecte l'énergie, il était mal positionné. Il ne permettait pas au tracteur d'avoir une circulation facile d'un rang à l'autre. Il faut le changer de sens. Ça a l'air tout simple, mais c'est exactement l'objectif du pilote, qui est le droit de se tromper, le droit d'essayer et le droit de réussir aussi, forcément.
Nous allons maintenant retrouver Jean-Michel Lamotte, un des 35 agriculteurs à l'origine du projet Terre Arboute et aussi président de l'association agricole Patave.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'exploite à peu près un peu plus de 150 hectares de terres agricoles menées en conventionnel, essentiellement du maïs. Nous avons une grosse problématique environnementale ici. Donc, en 2018, on nous dit, aujourd'hui, vous impactez la qualité de l'eau avec des pesticides qu'on retrouve donc dans l'eau. Donc, il faut absolument changer les pratiques. C'est pas facile, c'est pas simple. Passer en zéro phyto ici sur cette zone, c'est compliqué. Donc on a vite vu qu'il fallait répondre à l'enjeu de l'eau. L'objectif, c'est répondre à la qualité de l'eau pour les futures générations. Et ça, on en est conscient. En fait, l'idée, c'est OK, on va aller sur de nouvelles productions. en bio, avec quand même des grosses problématiques pour nous de produire en zéro phyto, puisque le zéro phyto, ça peut être zéro revenu aussi par des concurrences d'herbes qui font que vous avez zéro production quelquefois. Donc il fallait absolument qu'on sécurise tout ça. Le filet de sécurité, c'est le revenu vraiment lié au solaire, aux panneaux qui vont produire de l'énergie sur nos champs. Depuis 4 ans, donc, on développe donc, ce futur ferme. Donc d'allier un revenu solaire avec de nouvelles productions, avec en plus de plein de nouveaux débouchés, avec une start-up ici, de l'économie circulaire, de la biodiversité. On veut être un projet de référence avec donc projet Terra Arbout.
Vous dites que ce projet agrivoltaïque, c'est un filet de sécurité pour vous. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ?
Mais clairement, si demain le projet ne va pas au bout, qu'est-ce qui se passe ? On va faire des jachères sur 1400 hectares. Vous avez l'option 1, donc jachère. L'option 2, on va investir. On va créer donc, comment dire, de nouveaux débouchés avec de nouvelles cultures, mais uniquement que si on peut poser du solaire qui va donc nous fabriquer une assurance revenu pour les 35 agriculteurs en place sur ce périmètre de protection de captage.
Agrivoltaïsme, nos cultures à l'ombre des panneaux solaires, un grand reportage de Valentin Bertrand et c'était réalisé par Brice Garcia. Nous retrouvons en studio Jérôme Mousset, directeur de la bioéconomie et des bioénergies à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Jérôme Mousset, vous avez publié une étude l'année dernière avec l'ADEME sur l'agrivoltaïsme, une étude dans laquelle vous proposez une définition de ce concept. C'est fondamental hein, cette question de la définition. Dans quelle mesure votre définition elle se retrouve dans la nouvelle loi sur les énergies renouvelables.
Oui, donc effectivement, l'ADEME a publié cette étude l'année dernière, qui est un travail important, plus de 2 ans de travail, 50 experts mobilisés, donc c'est une définition qui a été partagée collectivement. Pourquoi cette définition est importante ? C'est, comme l'a montré le reportage, c'est qu'on a une diversité de types d'installations. 23 systèmes différents ont été identifiés dans l'étude, des couplages différents. Et donc, il était important de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, qui est finalement le cap vers lequel on veut aller sur ce type d'installation. Donc, la définition qu'on propose, je pense que le mot-clé, c'est la synergie, ça a été dit dans le reportage, c'est d'arriver à associer à la fois une production d'énergie renouvelable et, du coup, un maintien de l'activité agricole. Y a quelques petits principes qu'on peut rappeler dans la définition. D'abord, il faut que ce soit sur une même parcelle. Pour qu'on y ait cette synergie, il faut que les panneaux photovoltaïques se trouvent au-dessus du coût des productions agricoles, végétales ou animales. Il faut qu'il y ait un apport direct du service qui soit clairement identifié. On l'a vu dans le reportage, ça peut être des services agronomiques, d'adaptation au changement climatique, de protection contre les aléas. Et puis, un mot important, il faut qu'on ait une absence de dégradation de la production agricole. Et clairement, l'exemple des serres où on a une diminution de l'activité agricole, ce n'est pas de l'agrivoltaïsme. Le principe de la synergie, c'est bien apporter un service pour maintenir la production.
Voilà la grille de critères que vous avez établie avec l'ADEME. Est-ce que peut-être on peut savoir quels sont les effets positifs et négatifs de l'agrivoltaïsme aujourd'hui sur les cultures et l'élevage ? Est-ce que ça a été documenté ?
Alors effectivement, c'est une question importante quand on parle de synergie, c'est d'arriver à objectiver les avantages et les limites de chaque installation par rapport donc du coup aux cultures ou aux élevages. On l'a vu dans le reportage, on a des effets sur la lumière, sur la température, sur l'évaporation de l'eau. On peut en citer quelques-uns. Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est au début, c'est une filière qui démarre et voilà, on a besoin de se documenter, d'accumuler des connaissances pour objectiver cette synergie. On peut citer quelques exemples. On a, par l'effet d'ombrage, une diminution de l'évapotranspiration, c'est-à-dire de l'évaporation de l'eau, tout simplement, parce que du coup, on diminue le rayonnement et la chaleur. On a montré que dans certaines cultures maraîchage, on pouvait réduire de -20%, -30% les besoins en eau en irrigation. On peut avoir des effets négatifs sur le rayonnement solaire, donc l'apport de lumière par l'effet d'ombrage. Forcément, on va diminuer la photosynthèse et ça s'est vu dans certaines situations. On peut avoir du coup une diminution de rendement. Mais ça peut être contrebalancé par des effets positifs comme par exemple, ça a été beaucoup cité, l'effet de protection par rapport au changement climatique, notamment quand on a des périodes de chaleur forte, voire des canicules, ces installations vont pouvoir protéger les plantes et on a les premiers résultats montrent des effets positifs, hein, par exemple de plus de 10% de rendement sur des luzernes par exemple. Mais on voit bien que dans ces deux niveaux, les résultats vont être très variables selon les années, selon les régions, selon les cultures. Voilà, plus on aura, si on a une année avec beaucoup de canicules, de chaleur, on aura un effet important, mais qu'on retrouvera peut-être pas forcément l'année d'après. Donc on aura des effets très variables. Mmh. Autre exemple aussi d'effet qui a été documenté, c'est une diminution du risque de gel sur des arbres fruitiers, par exemple, donc en sortie d'hiver. Voilà donc ce qu'on peut dire. Après, l'autre exemple, effet positif et négatif, on peut en citer un aussi qui a été bien souligné aussi dans le reportage, c'est que ce type d'installation du côté de la production d'énergie est différent d'une installation au sol classique, parce que du coup, il faut donc une infrastructure pour mettre des panneaux assez hauts, et puis on a une densité de panneaux plus faible. Donc on a un coût d'installation qui est forcément plus élevé et un coût de production qui est aussi un peu plus élevé. Donc il y a un modèle économique aussi à trouver.
Alors on l'a entendu dans le reportage, hein, les expériences sont variées, les succès sont contrastés. C'est pour ça que la loi a instauré un observatoire de l'agrivoltaïsme. C'est important cette notion d'observatoire ?
Alors oui, la loi déjà, le fait de définir l'agrivoltaïsme, je pense que c'est quand même une avancée très importante parce que ça lui donne une existence. Voilà, ça va permettre de clarifier les débats. Quand on parle d'agrivoltaïsme, je pense que maintenant on parlera de la même chose, parce qu'il y a, comme on l'a vu, hein, il y a une diversité de types d'installations qui ne sont pas tous de l'agrivoltaïsme. Et puis, du coup, ça donne un cap de savoir finalement quel type de projet on veut accepter dans les exploitations agricoles sur les champs, et donc quels sont ceux qu'on veut écarter. Donc ça clarifie. Et effectivement, dans cette loi, il y a cette notion d'observatoire, notamment qui est confié à l'agence, à l'ADEME, qu'on est en train de préparer avec donc l'INRAE, les chambres d'agriculture. C'est vraiment important pour essayer de capitaliser les retours d'expérience qu'on va pouvoir trouver sur le terrain. On l'a vu, c'est une filière qui est bouillonnante, qui est pleine d'innovation, mais qui a une diversité extrême. Et donc cet observatoire va nous aider à recueillir les succès, les échecs, comme on a pu entendre, mais pas que sur les aspects techniques et économiques. Je pense que l'enjeu, c'est aussi sur les aspects économiques. Hein. On l'a vu, c'est un des enjeux importants. Donc, il faut qu'on ait une vision globale. Et puis aussi, s'assurer qu'il n'y a pas de dérive. Quoi. C'est une espèce de garde-fou qu'on garde bien les terres pour la production alimentaire.
On va y revenir. Un petit mot quand même du Salon de l'Agriculture. Vous sortez du Salon de l'Agriculture et cette semaine, il y a un projet de pôle de recherche sur l'agrivoltaïsme qui a été annoncé. Donc un observatoire et aussi des moyens de recherche aussi pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne.
Oui, effectivement. Donc il y a un pôle de recherche qui est en constitution autour de l'INRAE et de l'ensemble des acteurs, de développeurs qui devraient donc voir le jour prochainement, hein, courant de l'année. Comme on l'a vu, il y a d'énormes besoins de recherche pour documenter, objectiver les effets sur les productions, les synergies positives, les synergies négatives, mais même au-delà de ça, les effets sur la biodiversité ou sur l'économie. Donc il y a vraiment un programme de recherche important à monter parce qu'on est quand même sur une innovation forte, quoi. C'est quand même, j'aurais tendance à dire, presque une rupture de technologie dans l'évolution des systèmes agricoles. On va, pour la première fois, avoir des installations qui vont permettre de gérer, on va dire, la lumière et la chaleur sur les plantes. Donc.
Alors, tout ce débat est à replacer dans les problématiques de changement climatique, hein, on l'a bien entendu. Pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone en 2025, il faudrait trouver environ 100 000 hectares de surface pouvant être couvertes de panneaux solaires. Quelle part doit prendre l'agrivoltaïsme dans cette recherche ?
Alors, l'objectif de neutralité carbone, c'est 2050.
2050.
C'est quand même assez le cap vraiment stratégique à des années à venir, avec une place importante globalement sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, vous savez qu'on est en retard sur les énergies renouvelables. On est à peu près à 20% d'énergie renouvelable. L'objectif, c'est 32% en 2030. Et 2050, si on prend les scénarios de l'ADEME, on est entre 70-88% d'énergie renouvelable. Donc on voit que les énergies renouvelables vont prendre une place considérable dans le mix énergétique de demain. Tout ça pour atteindre la neutralité carbone, parce qu'il faut avoir en tête que La neutralité carbone, ça veut dire qu'on va pratiquement se passer du fossile aujourd'hui. Donc on a besoin de ces énergies-là pour les remplacer. Et dans ce mix énergétique de demain, le photovoltaïque a une place importante avec les autres énergies comme l'éolien, la biomasse, la géothermie, la méthanisation, j'en passe. Pourquoi le photovoltaïque est important? Parce qu'il va aider à décarboner l'économie, donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une énergie qui a des très bons bilans carbone, inférieur au mix électrique d'aujourd'hui. Donc ça permet de réduire nos émissions. Et en même temps, ça permet de développer de la production d'énergie renouvelable et faire face à l'augmentation des demandes de besoins d'électricité de la société, notamment avec la transformation du transport aujourd'hui.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, on entend dans le reportage la représentante de Sonagri dire 1 million d'euros à l'hectare pour une solution agrivoltaïque, c'est équivalent au prix d'installation des ombrières de parking. Il reste encore des parkings à couvrir. Pourquoi finalement se lancer d'ores et déjà dans l'agrivoltaïsme alors qu'il y a d'autres surfaces à couvrir, les terrains artificialisés, les parkings?
Oui, effectivement, le développement du photovoltaïque s'inscrit dans une diversité de types d'installations. On peut le rappeler rapidement, il y a les toitures, ça a été évoqué, hein, les toitures des particuliers, des entreprises. C'est la priorité parce que c'est déjà des installations artificialisées, donc il n'y a pas d'impact, on va dire, sur l'écosystème. Il y a un potentiel important, mais ce n'est pas si simple d'aller mettre des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures, des fois il faut les renforcer, ça coûte plus cher, etc. Donc c'est une priorité, mais ça suffit pas à atteindre les objectifs. Après, on a le photovoltaïque au sol, où là, dans les politiques publiques, on est un peu plus de 50% au sol, hein, 56-60. Et du coup, sur le sol, là aussi, on va avoir une diversité de types d'installations. Donc vous l'avez dit, il y a les parkings, les friches, qui sont les zones prioritaires sur lesquelles on va chercher à implanter des installations photovoltaïques. On a un potentiel de 53 gigawatts. Mais du coup, ça ne suffit pas, parce qu'il faut aller vite. Ce n'est pas toujours simple. Les parcelles sont des fois petites et pas toujours facilement accessibles. Donc si on veut atteindre notre objectif de neutralité carbone, il y a vraiment un enjeu d'accélération des énergies renouvelables, c'est un peu une course contre la montre, hein. Et donc il faut élargir le champ des possibles. Et c'est là qu'on arrive sur les espaces agricoles qui étaient convoités, parce que voilà, les agriculteurs détiennent une bonne partie de l'espace agricole en France. Et donc avec cette définition de l'agrivoltaïsme, on va donc du coup plutôt cadrer le type d'installation qu'on est prêt à accepter cette fois-ci dans les espaces agricoles. Je donne juste un chiffre, peut-être, c'est que si on atteint les objectifs des scénarios de l'ADEME 2050, avec l'objectif photovoltaïque qu'on a mis à peu près entre 90 et 144 gigawatts, l'espace total au sol qu'on aurait besoin, c'est inférieur à 125 000 hectares d'après nos calculs. C'est à peu près 0,2% de la surface française. Donc ça permet aussi de voir l'enjeu. Et quand je dis 125 000 hectares, c'est pas que agricole, c'est friche, parking, agricole.
Grand reportage, Anne Fauquemberg. Il est 17h48 sur France Culture. Agrivoltaïsme, nos cultures à l'ombre des panneaux solaires. C'est le grand reportage de Valentin Bertrand. Et pour en débattre, nous sommes toujours avec Jérôme Mousset de l'ADEME. Pour parler un peu des critiques formulées dans ce reportage, quand il y a un revenu généré par l'agrivoltaïsme, les loyers des panneaux solaires vont aux propriétaires des terres, hein, et les exploitants n'en récupèrent pas toujours grand-chose. Quel est le bon dosage en termes de partage de la valeur?
La question du partage de la valeur, c'est une question qui nous semble vraiment importante pour qu'on ait un développement harmonieux, équilibré du photovoltaïque, de l'agrivoltaïsme, et je dirais même de n'importe quelle énergie renouvelable dans le monde agricole. Il faut vraiment s'interroger au partage du coût de la valeur entre le développeur et l'agriculteur. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une diversité de types de montage qui existent déjà aujourd'hui. On l'a vu, on a des développeurs qui investissent et l'agriculteur va pouvoir bénéficier par exemple du service agronomique qu'on a évoqué, ou il peut bénéficier aussi d'une installation, ça a été dit dans le reportage, potentiellement une mise à disposition d'un terrain, donc c'est un service apporté, ou alors une location d'espace du sol par exemple. Donc ça, c'est le premier type de montage qu'on voit. On peut avoir d'autres montages qui vont un peu plus loin, où l'agriculteur peut être co-investisseur dans le projet, ou même investir lui-même dans une installation agrivoltaïsme. Les agriculteurs sont d'ailleurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des panneaux photovoltaïques dans leur exploitation agricole. On avait identifié 11 000. Donc là, l'agriculteur devient lui-même producteur d'énergie. Donc du coup, il y a une diversification de son activité. Et puis, on peut aller encore plus loin dans le montage. Et il y a eu un témoignage aussi très intéressant là-dessus, où on peut imaginer des projets participatifs. Du coup, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on associe au projet les riverains, les citoyens, ceux qui ont envie de mettre une partie de leur économie dans un projet d'énergie renouvelable pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est des projets qui sont beaucoup plus, je dirais, larges et qui ont l'intérêt aussi de faciliter l'appropriation, l'acceptabilité de ce type de projet.
Alors justement, vous parliez des riverains, il y a aussi la question de l'empreinte paysagère hein, avec ce sujet, comme pour les éoliennes, hein, même si en termes d'impact visuel, c'est peut-être un peu moins gênant. Comment faire accepter ce type de projet aux riverains? On entend dans le reportage que c'est très bruyant, par exemple. J'imagine s'il y a des maisons à côté, c'est pas très drôle.
La question du paysage, c'est une question importante et qui revient très souvent dans tous les projets d'énergie renouvelable. Alors nous, on parle de moins en moins d'acceptabilité, mais beaucoup plus d'appropriation par les citoyens. La nuance, c'est que l'appropriation, notre souhait, c'est que les citoyens, les riverains, puissent s'impliquer dans cette transition énergétique et participer en amont dès la conception des projets. L'enjeu du paysage, il est vraiment important parce que la transition énergétique, ça revient à produire en France, via des éoliennes, via du photovoltaïque, de l'énergie qu'on apportait en partie avant, qu'on voyait moins. Et donc, effectivement, ça transforme un peu les paysages. C'est un sujet qu'on travaille vraiment de manière très importante avec des partenaires comme l'École nationale supérieure des paysages de Versailles. Et il y a des démarches qu'on peut citer. Il y a des démarches plans de paysage qu'on soutient. C'est des démarches qui consistent à travailler avec des paysagistes, donc à l'échelle d'une collectivité, hein, d'une commune, où on va donc impliquer les citoyens dans cette réflexion de la transition énergétique autour de la collectivité pour discuter finalement de ce qu'on est prêt à accepter ou pas comme type d'installation photovoltaïque, éolien, où est-ce qu'on est prêt à en mettre, etc. Il y a vraiment un travail d'amont, un lieu de concertation finalement autour du paysage et de la transition énergétique. Donc,
Mais qui décide? Qui décide d'ouvrir ces projets sur les territoires? Les citoyens ne sont pas forcément associés à la décision.
Ben l'enjeu, justement, c'est que n'importe quel projet d'énergie renouvelable, quel qu'il soit, parce que ces controverses, on les a partout, hein, la méthanisation, c'est pareil. Pour nous, la règle de base, c'est vraiment d'impliquer au maximum, en amont, les citoyens dans la réflexion, dans la préparation du projet. Et je voulais revenir dans les types de solutions par rapport au paysage, qui n'est pas une question à évacuer, qui est une vraie question, hein, qu'il mm-hmm. faut aborder vraiment de manière la plus sérieuse possible, le plus proche possible, on va dire, des personnes concernées. Donc il y a ces démarches plan de paysage, mais j'en reviens à l'exemple qui a été cité dans le reportage, donc des démarches d'énergie participative, énergie partagée. Pour nous, c'est aussi une manière de travailler sur l'appropriation de la transition, l'appropriation des changements de paysage, en impliquant les citoyens dans, finalement, le montage, le financement et les recettes du projet d'énergie renouvelable.
Une question de Valentin Bertrand.
Vous parlez d'appropriation, il y a une autre question qui revient de manière récurrente, c'est la répartition des projets. La répartition dans le sens où, par exemple, dans la Nièvre, on entend 64 projets en cours. Un agriculteur m'a dit, moi je serai pour l'agrivoltaïsme quand il y en aura sur le champ de Mars à Paris aussi, parce que moi je risque d'être cerné par l'agrivoltaïsme. Là-dessus, quel mécanisme on peut imaginer de répartition?
Dans la loi, il y a la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables qui vont permettre du coup d'identifier, de repérer les espaces, les zones dans lesquelles on va privilégier le développement de ces énergies renouvelables. Après, je pense qu'effectivement, la question de la répartition, il faut l'aborder, je pense, à l'échelle de chaque territoire. J'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est quand même essayer de relativiser aussi l'enjeu quand on parle potentiellement de 0,2% en 2050 d'espace concerné par photovoltaïque. Au niveau des territoires, on devrait arriver, j'espère, en tout cas, les placer dans des espaces un peu moins visibles.
Il y a quand même des fortes craintes, je pense aux jeunes agriculteurs, je pense à la Confédération paysanne, de risques de spéculation foncière. La loi répond à ces craintes-là?
Nous, on entend complètement ces craintes de risque de spéculation des sols ou très concrètement, si une installation photovoltaïque donne une rémunération plus importante qu'une activité agricole, il y avait un risque de, comment dire, d'écarter l'espace, les parcelles d'une production classique alimentaire. Moi, je pense qu'il y a deux garde-fous. C'est la loi, quand même, parce que du coup, elle définit l'agrivoltaïsme avec un maintien de la production agricole. Et donc, si on a une diminution ou une perte de la production alimentaire, ce n'est plus l'agrivoltaïsme, donc ce n'est plus éligible à ce type de projet. Donc je pense que c'est un premier garde-fou et je pense que ça évite cet effet, on évite de ce risque de spéculation. Et puis le deuxième garde-fou, c'est l'observatoire. C'est voilà, il faudra que, on le disait au début, hein, on est sur une filière émergente, en pleine croissance, il va falloir que tous collectivement, on suive les installations de près et qu'on regarde s'il y a des dérives, s'il y a des situations qu'on ne souhaite pas promouvoir, qu'on puisse corriger le tir.
Une dernière question, Jérôme Mousset. Comment être sûr que ces structures soient réversibles, qu'on puisse les enlever? C'est dans la loi, hein, ce concept de réversibilité, d'autant plus que les agriculteurs ou les exploitants sont engagés sur des années.
Ah, mais la réversibilité, ça fait partie effectivement de la définition. C'est une condition de l'acceptation du projet. Pourquoi c'est important? Parce que la protection des sols, de manière générale, c'est quelque chose qu'on tient beaucoup. C'est un espace productif, c'est un milieu vivant. Voilà, je rappelle juste un chiffre. 25% de la biodiversité, c'est dans les sols. Et donc, il y a vraiment un enjeu à le maintenir en très bonne qualité.
Les entreprises peuvent dire ce qu'elles veulent, mais bon, on n'a pas de garantie. C'est dit dans le reportage aussi sur le fait qu'on puisse enlever ces panneaux solaires si on le veut.
Du coup, les préconisations, c'est d'avoir des installations, comme ça a été dit à un moment donné, le plus légère possible. Donc, on a un guide là qui va sortir, photovoltaïque, biodiversité et sol, donc qui donne des recommandations sur le type d'installation qui facilite le démontage. Et pour moi, après, c'est dans l'évaluation du dossier, il faut que chaque porteur explique comment il va gérer le démantèlement à la fin du projet.
Merci Jérôme Mousset. Je rappelle que vous êtes directeur de la bioéconomie et des bioénergies à l'ADEME. Merci Valentin Bertrand pour votre grand reportage. Agrivoltaïsme, nos cultures à l'ombre des panneaux solaires. C'était réalisé par Brice Garcia. À la technique ce soir, Timothée Hubert. Ce grand reportage et tous les autres sont à réécouter sur notre site internet franceculture.fr et sur notre application Radio France.